Bonjour à tous. Je me réjouis de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Et pour cela, je vous invite à prendre une Bible. Vous avez juste le temps d'aller prendre une Bible là où vous êtes, si vous ne l'avez pas déjà avec vous, et à l'ouvrir au chapitre 11 du livre d'Ésaïe. Nous allons lire tout à l'heure les 10 premiers versets. Avoir une Bible avec soi, c'est aussi une manière de suivre mieux la prédication, parce que ça vous permet de voir le commentaire que je ferai de ce texte. La prédication, ce n'est pas un exercice libre où l'on raconte ce que l'on a envie de raconter sur le texte, mais dans la prédication, nous cherchons à annoncer le projet du Seigneur, et donc à partir du texte tel qu'il nous est donné, pour en tirer un sens pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans l'époque actuelle, dans une époque particulière, une époque agitée, qui est traversée par des circonstances difficiles, faites de crises sanitaires, sociales, politiques, économiques. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que à toutes époques, il y a eu des crises de tout genre. Et néanmoins, parfois dans l'histoire, ces crises sont plus vives et nous sommes plus sensibles aux événements que nous traversons. C'était le cas aussi au 8e siècle avant Jésus-Christ, où les Juifs vivaient une période vraiment particulièrement agitée sur le plan international. Et à cette époque-là, un prophète se lève, un prophète incroyable, un colosse, Ésaïe. Ésaïe se lève et annonce dans ses oracles l'avènement d'un roi de justice, un prince de la paix, dans un monde où l'on ne connaît pas la paix. Il y a plusieurs prophéties qui sont regroupées dans les chapitres 7 à 12 sous ce qu'on appelle d'habitude le livret de l'Emmanuel. Plusieurs de ces textes, dans ces chapitres 7 à 12, vous sont familiers si vous êtes un lecteur de la Bible. Des textes qui se rapportent à l'attente d'un Messie, d'un roi de justice. Par exemple, au chapitre 7, verset 14, il est question d'une jeune fille vierge qui sera enceinte et qui va donner naissance à un fils qui portera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Et la tradition chrétienne a vu dans cette annonce la naissance de Jésus. Et puis, deux chapitres plus loin, au chapitre 9, cet Emmanuel est présenté comme un roi qui porte des titres extraordinaires, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Cet Emmanuel va apporter une paix dans ce monde, une paix qui durera toujours. Et puis le prophète continue, chapitre 10, avec l'annonce de la destruction de tous ceux qui s'opposent au projet de Dieu. L'annonce de la destruction de l'ennemi de l'époque, l'ennemi assyrien. La Syrie est vue comme une vaste forêt. Le peuple représente ses arbres de toutes parts et les puissants parmi ce peuple oppresseur sont des arbres qui s'élancent encore au-dessus des autres. Eh bien, nous dit Ésaïe, tous ces arbres seront coupés à la hache. Il n'en restera plus ou si peu que même un petit enfant pourrait les compter. Verset 33, au chapitre 10, il est dit « Le Seigneur des armées célestes abat avec violence toutes ces belles branches. Les plus hauts arbres sont coupés, les plus élevés sont à terre. » Et maintenant que les ennemis du Seigneur sont à terre, qu'en est-il du peuple de Dieu? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en lisant le début de ce chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. Je lis dans la version du Semeur, et il est écrit « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe ». Isaïe et non pas Ésaïe. Isaïe, qui est le père du roi David. « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. » L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. son plaisir sera d'obéir à l'Éternel, crainte du Seigneur. Il est dit de cet homme attendu qu'il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des ouï-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit. Il arbitrera en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Et suit maintenant la description de ce royaume sur lequel il régnera. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère paîtra aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble. Et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Il adviendra, en ce jour-là, que le descendant d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples. Et toutes les nations se tourneront vers lui, et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Jusqu'ici notre lecture. Nous avons un vieux chant qui nous parle de ce texte et j'aimerais qu'on puisse le chanter ensemble. Ce vieux chant, un chant que l'on chante traditionnellement à Noël, dit d'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaïe, un frais rameau jaillit.
Séculaire du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frais rameau jaillit, et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire, une rose a fleuri.
Seigneur, tu t'es donné pour moi, tu t'es donné pour chacun de nous, béni sois-tu. Eh bien, je vous invite maintenant à méditer le texte que nous venons de lire et j'aimerais le faire en suivant le texte. Il est question tout d'abord, au début de ce chapitre 11, du tronc d'Isaïe. Isaïe qu'on appelle aussi Jessé dans certaines traductions. Nous l'avons vu, le jugement de Dieu est tombé sur la forêt assyrienne. L'ennemi de Dieu est à terre. Ces arbres ne sont plus là, ils sont coupés. Dieu aura eu le dernier mot sur ceux qui s'opposent à lui. Cet opposant était féroce. Quelques années après la prophétie d'Ésaïe, il va envahir le royaume du Nord et en 722, il va emmener beaucoup de captifs de Samarie et remplacer la population de Samarie par des étrangers. Mais sur ceux qui ne craignent pas le Seigneur et qui s'opposent à lui, Dieu a le dernier mot. C'est un arbre particulier qui est à terre. Je dis particulier parce que c'est un arbre en quelque sorte généalogique. Cet arbre qui est à terre, c'est l'arbre qui porte toute la lignée de David. Et sur cet arbre, on part de la personne qui est la plus insignifiante pour monter jusqu'à celle qui a le plus d'importance. C'est le contraire de nos arbres généalogiques où, généralement, on part d'une personne, de nous, souvent, pour essayer de voir ensuite dans les racines s'il n'y aurait pas quelque part un héritage de noblesse, s'il n'y aurait pas quelque chose dont on pourrait se prévaloir pour se glorifier. Eh bien ici, c'est tout l'inverse. On part d'une racine, la racine de Jessé. Un quasi inconnu, quelqu'un qui vient d'un petit village insignifiant, Bethléem. Et on peut se demander, mais pourquoi cet arbre part du père de David au lieu de partir de David directement? Et je pense que Ésaïe le fait ainsi, le prophète, pour bien montrer que de choses insignifiantes et que de personnages insignifiants, Dieu peut faire jaillir de grandes choses. Ce n'est pas à partir de ce qui est glorieux sur un plan humain que Dieu agit, mais il part souvent de ce qui est faible, de ce qui est petit, de ce qui n'a pas de valeur. Ce tronc d'Isaïe est celui qui porte toute la lignée des rois de Juda. Le premier de ces rois, c'est David. David qui est le modèle, David qui est le roi selon le cœur de Dieu. Un roi qui exerce la justice, même s'il n'a pas été parfait. Son successeur, Salomon, va être encore un homme glorieux, d'une certaine manière, en tout cas au début de son ministère, quelqu'un qui est plein de sagesse. Le problème, c'est que les successeurs de cette lignée royale vont être de piètres modèles. Ils vont défigurer l'image du roi. Ils vont être infidèles à Dieu. Ils vont être responsables de tous les malheurs qui arrivent pour le peuple. Ils n'empêcheront pas la division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Ils n'empêcheront pas l'idolâtrie de s'installer dans le pays. Ils vont être des rois manipulateurs, oppresseurs. Des rois qui ont oublié comment un roi fidèle doit être. En fait, l'institution royale fait faillite. Elle a manqué sa mission. Nous nous sommes là 2 siècles et demi après le début de la royauté en Israël. Et nous voyons que la dynastie de David ressemble à un arbre mort qui est tombé à terre. Peut-être sous l'effet du vent, il a été renversé. Il n'y a plus rien. C'est la fin de cette dynastie. Elle a perdu de vue ce qui était son objectif essentiel, celui d'assurer la cohésion du peuple, d'avoir des rois qui règnent avec sagesse, qui favorisent la justice, qui pacifient les relations. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé. Contrairement à toutes les forêts de la Syrie qui sont rasées, coupées, où il n'y a plus d'espoir, plus aucun avenir, ici, cet arbre est tombé à terre, il est couché, mais il porte un magnifique espoir en lui. Il nous est dit qu'un rameau va jaillir de ce tronc. Une nouvelle pousse va naître de cet arbre qui est mort à terre. Une nouvelle branche va sortir, d'elle va jaillir une fleur et même un fruit. Ce fruit, c'est un homme remarquable, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. et qui va prendre la relève, qui va être un nouveau David, un roi qui va être un roi de justice. Les Juifs ont compris que ce rameau qui sort du tronc de Jessé, c'est le Messie attendu. C'est l'Emmanuel dont il était question déjà précédemment. C'est le prince de la paix. Les Juifs ont compris que ce serait le Messie et les chrétiens ont vu Jésus qui était ce Messie attendu. C'est Jésus qui fait surgir la nouveauté à partir de ce vieux tronc des habitudes peut-être religieuses, de ce vieux tronc des institutions qui sont sclérosées. C'est Jésus qui vient redonner la vie là où il n'y a plus de vie. J'aimerais vous faire encore une remarque à propos de ce tronc d'Isaïe. En fait, si vous faites une petite recherche sur un moteur de recherche et que vous tapez « tronc de Jessé » ou « tronc d'Isaïe », vous allez voir apparaître tout un tas de représentations, de peintures ou de motifs divers qui représentent cet arbre de Jessé. En fait, dans l'art chrétien, entre le XIIe et le XVe siècle, on a eu pour habitude de montrer, sous forme de peinture, ou parfois de tapisserie, ou dans des enluminures, ou dans des sculptures, ou dans des retables, on a eu l'habitude de montrer l'arbre de Jessé. On y voit généralement au fond un homme couché, c'est Isaïe, duquel sort une racine qui monte jusque très haut, et tout en haut, nous y voyons la figure de Jésus. Mais je ne sais pas si vous savez que notre sapin de Noël, que l'on dresse dans nos maisons, a aussi un rapport avec cet arbre de Jessé. Dans la tradition luthérienne, on a généralement mis au sommet de l'arbre de Noël une étoile. Cette étoile, c'est donc quelque chose qui vient du ciel, sur la terre, sur un arbre qui prend racine avec cet arbre qui est là et qui témoigne en fait du ciel qui vient sur la terre sous la forme de Jésus. J'aimerais passer à mon deuxième point. La suite du chapitre 11 nous présente ce rejeton de la racine, ce rejeton qui est un roi de justice. Cette branche nouvelle appelle un roi encore plus grand, plus parfait que ne l'était David. Un roi qui va accomplir tous les idéaux du gouvernement de Dieu sur la terre. Un roi qui n'est pas un fruit matériel, mais un fruit spirituel. Ce qu'il va apporter, c'est l'obéissance au Seigneur. Et par l'obéissance au Seigneur, il va apporter la paix. Parce que lorsqu'on obéit au Seigneur, on entre dans la paix. Ce nouveau David, c'est Emmanuel. Il va accomplir une immense tâche. Il va apporter la paix sur terre. Et Dieu l'équipe pour cela. Il va lui donner son esprit. Jusque-là, Dieu donnait parfois son esprit au roi pour qu'il puisse accomplir leur ministère, aux prophètes pour qu'ils puissent parler au nom de Dieu, parfois à des artisans pour qu'ils puissent exécuter le temple, la construction du temple de Dieu. Mais c'était un esprit qui était donné de manière sporadique, ponctuelle, limitée dans le temps. Pour que ce nouveau roi David puisse accomplir la justice de Dieu sur la terre, il va falloir qu'il soit pleinement équipé par Dieu et qu'il reçoive pleinement l'Esprit de Dieu, en abondance, en surabondance. Il baigne dans cet esprit-là. Le verset 2 nous dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un esprit qui vient de Dieu, un esprit qui appartient à Dieu, un esprit qui travaille pour Dieu. Alors réfléchissez un instant, cet esprit dont il est question ici, c'est une personne qui est indépendante du Messie, une personne qui est aux côtés de Dieu le Père. Cet esprit dont il est question a déjà amené beaucoup de bénédictions depuis l'origine du monde. Mais ici, il se rapporte à l'esprit qui va revêtir Jésus. Et nous lisons dans le Nouveau Testament, à propos de Jésus, en Colossiens 2, verset 9, « Car c'est en lui, en Jésus, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » Eh bien, quand Jésus, se rejetant de David, comme le voit la tradition chrétienne, a été sur la terre, il avait toute la plénitude de Dieu, tout l'Esprit de Dieu en lui, et il a pu accomplir tout le projet de Dieu. D'ailleurs, Ésaïe l'annonce déjà, un peu plus loin, au chapitre 61, quand il met dans la bouche du serviteur de l'Éternel, aussi une figure du Messie, ces paroles, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. » Et Jésus va reprendre ces paroles à son propos. Il va les citer en se citant lui-même. « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus n'est pas venu dans ce monde les mains vides. Il est venu pour remplir une mission. Il est venu pour exercer la royauté. Avec l'Esprit qui reposait sur lui, il a reçu tous les dons qu'il lui fallait. Il y en a 6 qui sont mentionnés ici. Ils sont mentionnés par groupe de 2. Les 2 premiers concernent les qualités essentielles pour diriger. C'est l'esprit de discernement et l'esprit de sagesse. Qu'est-ce que l'esprit de discernement ? Le discernement, c'est ce qui permet de connaître la pensée de Dieu la plus profonde, qui permet de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, qui permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Celui qui a l'esprit de discernement est donc à même ensuite de faire des choix justes. Et pour celui qui veut exercer la justice, comment serait-il possible de l'exercer sans l'esprit de discernement ? Il est question ici de sagesse. Eh bien, la sagesse, c'est quoi ? C'est cette capacité à détester le mal et à faire le bien. C'est cette capacité à renoncer à l'orgueil, à la suffisance de soi, à une mauvaise conduite, pour suivre les voies de Dieu. Il fallait que ce rejeton soit équipé de discernement et qu'il soit équipé de sagesse. On arrive aux 2 dons suivants, qui sont des dons qui sont nécessaires pour mener le combat, le bon combat. Ces 2 dons sont le conseil et la force. Le conseil, c'est cette capacité à faire des plans, à réfléchir, à envisager des projets. Ésaïe, au chapitre 9, nous présente Emmanuel comme le merveilleux conseiller, celui qui sait faire des plans qui sont justes. Et puis, l'évangéliste Luc nous dira que Jésus parlait avec force. Cet esprit de force, c'est l'esprit qu'avait Jésus quand il était sur terre. Il avait une autorité. Quand il parlait, on reconnaissait qu'il ne parlait pas comme le commun des mortels. Il parlait avec force. Il percutait. Sa parole avait de la puissance. Et cette parole est une parole de vie. Ses qualités de réflexion, de puissance dans la parole sont essentielles pour celui qui veut exercer la justice. Puis arrive la troisième triade, troisième groupe, qui concerne plutôt la direction spirituelle. Ce sont 2 dons qui permettent à la fois de comprendre la pensée de Dieu et puis d'agir en conséquence. C'est le don de la connaissance et le don de la crainte du Seigneur. La connaissance, la vraie connaissance ne peut venir que de Dieu. Il n'y a de vraie connaissance qu'en Dieu et nulle part ailleurs. Pour avoir la connaissance de ce que Dieu veut, il faut être un intime, il faut être proche de lui. Et le Nouveau Testament nous révélera combien Jésus avait une connaissance intime de son Père. Combien, dans tout ce qu'il faisait, Il reflétait finalement la connaissance qu'il avait de son Père. Et Jésus avait aussi la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est le respecter et c'est lui obéir. En fait, le Messie qui nous est présenté ici par le prophète Ésaïe est quelqu'un qui est tellement proche de Dieu, qui baigne tellement dans l'Esprit de Dieu, que dans tout ce qu'il fait, il fait le plaisir de Dieu. Il obéit à Dieu, c'est naturel, ce n'est pas un souci pour lui. Et c'est pour cela que Dieu va lui confier la responsabilité la plus importante qui soit, il va lui confier la responsabilité de juger ce monde. La justice n'appartient pas à ce monde. Beaucoup de choses sont injustes. Trop souvent, nous sommes jugés sur nos apparences ou sur des ouï-dire. On ne vérifie même pas. On est jugé comme cela, parfois par le faciès. Et trop souvent, nous jugeons nous-mêmes les autres ainsi. Nous sommes injustes dans nos jugements. Mais au lieu de tenir compte de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui se perçoit, le Messie va exercer sa justice. Rester à l'extérieur, il va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il va juger selon ce qui est réellement au fond des cœurs. Il aura tellement la connaissance de Dieu que son jugement va discerner jusqu'au plus profond des cœurs. Et son jugement sera juste. Les six dons qu'il a reçus, les six dons de l'Esprit, vont lui permettre d'exercer la justice sans qu'il y ait aucun biais. Il va exercer une justice parfaite, une justice qui va être d'abord au bénéfice des plus pauvres, des plus petits, de ceux qui sont assez humbles, ce sont ça aussi les petits, ceux qui sont assez humbles pour reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu. C'est une justice qui n'a rien à voir avec la justice de ce monde. En préparant cette prédication, je pensais à un ami africain, à un de mes amis qui peine depuis 2 ans à obtenir réparation ou justice pour sa maison qui est en train de s'écrouler. Il y a un immeuble qui a été bâti juste à côté de sa maison, qui est accolé à sa maison, mais qui a été bâti sur de mauvaises fondations. Et cet immeuble est en train de pencher de plus en plus. J'ai vu les photos, c'est impressionnant. On pense qu'il va tomber bientôt. Et il entraîne dans sa chute la maison de mon ami. Voilà 2 ans que cet ami essaye d'obtenir réparation. Mais il est face à des juges véreux qui font traîner l'affaire parce qu'ils ont reçu des pots de vin. Eh bien, savoir que le Messie exercera la justice différemment de celle qui est parfois corrompue parmi les hommes, c'est un vrai réconfort. La justice de Dieu se doit parfois d'être punitive. C'est comme nous le dit aussi la fin du verset 4. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche ou du bâton. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Eh bien, quand il le faudra, la parole du Seigneur, cette parole qui sortira de sa bouche, sera comme une épée acérée, une épée qui va trancher dans le vif et qui va condamner ce qui est coupable, qui va séparer le bien du mal. Le verdict de Dieu va s'abattre sur le coupable. Il va faire mourir le méchant. Et cette justice va s'exercer sur toute la terre. Et c'est ainsi que le pauvre et l'opprimé seront délivrés. Vous savez, ce Jésus que l'on accueille à Noël, ce n'est pas juste le doux petit Jésus. C'est aussi un juge. Un juge qui enfile ses vêtements de juge à la manière d'un guerrier et qui, pour faire tenir tous ses habits ensemble, eh bien, prend une ceinture. Et cette ceinture, c'est celle de la justice. Tout tient grâce à la justice. S'il n'y avait pas de justice, tout s'écroulerait dans le ministère de Jésus. On retrouve cette pensée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, où Jésus est présenté comme un cavalier qui chevauche un cheval blanc. Et il a dit ceci, « Je vis le ciel ouvert, dit Jean qui écrit la prophétie, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. » Eh bien, voici le Messie que nous attendons, un roi de justice. Et j'en arrive à mon troisième point. Ce roi de justice vient pour établir la paix sur la terre. C'est un roi parfait, un roi comme la terre n'en a jamais connu. Un roi, on l'a vu dans les versets 2 à 5, qui se distingue de tous les dirigeants terrestres. Et dans les versets 6 à 9, nous apprenons que le royaume sur lequel il va régner se distingue également de tous les royaumes que nous avons connus dans ce monde. Dans son royaume, il n'y aura plus aucune hostilité, ni entre les hommes, ni entre les bêtes, ni entre les bêtes et les hommes. Le loup séjournera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit garçon les mènera. Si ici on n'est pas dans un conte de fées. Nous faut-il vraiment comprendre ces paroles au sens littéral du terme? Est-ce que le lion deviendra vraiment herbivore? Il me semble, et j'y reviens tout à l'heure, il me semble qu'il nous faut voir ici, dans cette description, le retour à un monde où il ne règne plus aucune hostilité, un monde nouveau, où le faible ne sera plus la proie du fort, un monde tellement paisible qu'un petit enfant n'aura aucune difficulté à conduire ses bêtes sauvages. Le loup et l'agneau qui vivent ensemble nous parlent de paix, d'une paix qui va être durable. La panthère qui va paître à côté du chevreau nous donne l'image d'un monde qui est un monde apaisé, réconcilié. Dans ce royaume, avec des bêtes sauvages et des bêtes domestiques qui vivent ensemble, et où un petit enfant est là sans danger, dans ce royaume, il n'y aura plus aucun conflit. Même le serpent, qui est l'ennemi de toujours, même le serpent ne représente plus une menace. Il est dit au verset 8, « Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. » Cela veut dire que tout mal aura disparu. Tout mal aura disparu sur la montagne sacrée de l'Éternel. Cette montagne sacrée qui est la colline de Jérusalem sur laquelle est bâti le temple. Cette montagne sacrée qu'on appelle Sion très souvent dans la Bible. Sion, c'est le lieu où règne le Seigneur. C'est le lieu de la présence de Dieu sur la terre. Mais ce n'est pas que dans la Jérusalem physique, dans la Jérusalem actuelle que l'on trouve en Palestine, que régnera la paix. Il est bien question ici d'une paix qui va se répandre sur la terre entière. Dieu habitera sur la terre, parmi les siens. Tout lui sera soumis. Plus aucune parcelle de ce monde, plus aucune parcelle de cette terre ne pourra échapper à la souveraineté de Dieu. De la même manière que les eaux couvrent le fond des mers, et il n'y a aucune parcelle du fond des mers qui n'échappe à l'eau, de la même manière, aucune parcelle de notre terre n'échappera à la souveraineté de Dieu. Dieu sera connu et respecté partout. Tout genou va fléchir devant Dieu. Cette hostilité radicale, fondamentale de l'humanité avec son Créateur aura cessé. Il va y avoir une refondation du monde. Une terre qui va être entièrement renouvelée. Une terre sur laquelle les animaux redeviendront les compagnons des hommes. Ce texte a donné lieu à diverses interprétations, comme vous le savez sans doute. Il y a une interprétation figurative. à laquelle se ralliait par exemple Calvin. On aurait ici une peinture un peu idyllique qui permet de décrire ces nouvelles réalités qui vont avoir lieu sur la terre comme dans le ciel. Et je crois qu'il y a quelque chose à entendre dans cette interprétation figurative. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Chacun, dans l'expression de sa diversité, et là on voit toutes sortes d'animaux, chacun dans l'expression de sa diversité, parviendra à cohabiter ensemble. Ce qui semble aujourd'hui impossible, un loup avec un agneau, sera désormais possible. Les gens de toutes conditions parviendront à vivre en paix, dans un monde harmonieux, sans faille. Ce loup, c'est celui que le Christ convertit. C'est notre ancienne nature. C'est notre cœur trop sec. Cette transformation qui est annoncée, c'est celle de la nature de l'homme. Chacun connaîtra Dieu tellement parfaitement que tout va être différent. Je crois qu'on peut entendre cette interprétation, mais elle risque néanmoins de nous faire courir le risque de pouvoir mettre beaucoup d'images que l'on tire de nous-mêmes sur la notion de ces animaux. On parle souvent de l'homme qui est un loup ou de l'homme qui est un agneau. Il n'y a pas vraiment de bornes dans le texte qui nous permettent de mettre des limites à cette interprétation. C'est pourquoi je pense qu'on peut aller un pas plus loin et de se dire que si Ésaïe prend autant de peine pour décrire ces différents animaux et leurs conditions d'animal, eh bien, on peut y voir sans doute une forme de retour à ce qui prévalait dans le jardin d'Éden avant la chute. Au commencement, les animaux étaient des aides pour l'homme. C'est l'homme qui leur a donné un nom. Il avait un pouvoir sur eux, mais ça se passait bien entre eux. Il n'y avait pas d'hostilité entre l'homme et l'animal. Et la paix qui est annoncée ici, où l'on voit un petit enfant à côté d'un lion, cette paix est celle que l'on va pouvoir retrouver quand le péché sera anéanti, quand Dieu va rétablir cette situation qui prévalait avant l'irruption du péché dans le monde. Dieu va recréer ce monde. Il va nous amener dans une terre entièrement restaurée, où les humains et les bêtes pourront vivre en paix. Un monde dans lequel tous connaîtront l'Éternel et tous feront la joie de l'Éternel en lui obéissant. Un monde dans lequel il n'y aura plus aucune hostilité. Je mentionne juste en passant une troisième interprétation à laquelle je ne souscris pas, qui est celle d'interprètes qui ont voulu voir dans ce tableau une description de ce qui se passerait dans le millénium. Cette interprétation ne me semble pas possible parce qu'il est ici question d'un monde où le péché et le mal aura totalement disparu et où la connaissance de Dieu sera parfaite. Or, ceux qui pensent à un millénium qui est futur, encore à venir, reconnaissent eux-mêmes qu'il y aura encore une révolte après ce millénium qu'ils attendent. Ce qui veut dire que le péché n'aurait pas disparu et donc que la description qui est faite ici ne peut pas se rapporter à un millénium qui serait à venir. La paix qui nous est décrite ici est une paix qui ne vient pas toute seule. Elle fait suite au jugement. Elle jaillit de la justice. Le Nouveau Testament nous parle du règne de Christ. Il nous dit que dès à présent, depuis l'ascension, Christ est assis à la droite de son Père et il exerce son règne. Son règne a commencé. Son royaume est en train d'être établi. Son esprit est déjà donné en abondance, non seulement sur Jésus le Messie, mais Jésus a fait en sorte que cet esprit soit déversé sur tout le peuple de Dieu. Nous avons reçu cet esprit en abondance pour que nous puissions entrer dans cette réalité nouvelle, un monde nouveau qui est fait de réconciliation, de paix, de confiance les uns envers les autres au sein du peuple de Dieu. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce monde nouveau. Trop souvent encore, nous ne laissons pas suffisamment l'Esprit agir parmi nous ou en nous. Mais nous avons dès à présent reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet d'entrer dans cette réalité nouvelle. Le règne du Christ est déjà là, dans nos vies, dans l'Église. Mais un jour, Jésus va revenir, nous l'attendons. Il va revenir pour juger le monde, pour accomplir sa justice. Il va changer la création tout entière. Et ce jour-là, le faible ne sera plus la proie du fort. Ce jour-là, il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes, mais il y aura partout une joie profonde, une paix qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et cela va être le paradis retrouvé. J'aimerais conclure en disant que nous sommes dans le temps de l'Avent. L'Avent, c'est un temps d'attente. Nous attendons Jésus. Jésus est venu à Noël déjà, mais nous l'attendons encore pour sa seconde venue. Mais Jésus est venu déjà une première fois. Il se dresse aujourd'hui comme un étendard pour les nations. C'est notre verset 10 qui nous le dit. De la racine de Jessé, qui sert d'indicateur. C'est un lieu de rassemblement pour tous les peuples. Et si nous voulons trouver la paix dans ce monde, il nous faut aller vers cet étendard. Cet étendard qui plonge ses racines dans la souche de Jessé. Ses racines de vie sont celles de la vie de Jésus. Nous ne pouvons pas trouver le repos et la paix en n'allant pas puiser la sève dans les racines de Jésus. Il y a une nouvelle vie qui est possible, qui jaillit de la vie en Jésus. Une vie qui est donnée à tous ceux qui veulent bien s'enraciner en lui. Cette vie, elle est là désormais, au sein du peuple de Dieu. Cette vie, elle se donne à voir dans ce qu'est le peuple de Dieu. Elle se donne à voir chaque fois que les chrétiens sont à l'œuvre et cherchent à reproduire, à imiter, à faire les actions de Jésus. Nous ne sommes pas là, benoîtement, à attendre le retour de Jésus-Christ. Jésus nous confie une mission, celle d'étendre son royaume, d'être nous-mêmes des acteurs de justice, d'être au service d'un roi de justice et de marcher dans ses traces. Nous avons reçu la vie de Christ et nous devons la partager. Nous sommes, avec l'aide du Christ, les artisans de ce monde nouveau qui vient. Un monde fait de justice, d'humilité et d'amour. Noël annonce ce processus. Noël annonce le renouvellement des cieux et de la terre. Noël, c'est une vraie bonne nouvelle que nous voulons partager autour de nous. Amen.